Reportage est consacré à Pantaléon Alessandri. Cet ancien militant politique, cet ancien prisonnier politique vit aujourd'hui à Nougario. Menuisier, ébéniste, poète, écrivain, conteur, Léon Alessandri nous accueille dans son village, un village qui ressemble à un village de crèche. Nous sommes à Nougario, en Castagniccia.
Les reportages de Jean-Paul Luciani sur Frequenza More.
Je fais des meubles traditionnels aux Corses, principalement châtaigniers. Mais après, je fais aussi de la chaiserie d'Ourritz, et là, alors c'est du hêtre. Alors évidemment aussi, avant le hêtre, il venait d'ici, puisque sur la forêt du San Pedro, il y en avait. C'est une forêt de hêtre. Et puis maintenant, plus personne ne coupe du hêtre là-haut, donc j'achète du bois chez les marchands. Et là, ça vient des Vosges, peut-être, de la France. Sinon, un peu de noyer aussi, je travaille, des beaux meubles. Un peu en restauration, je me sers de noyer. Voilà, c'est à peu près ces trois bois que je travaille le plus. Voilà. Et à 90% du châtaignier, 8% de hêtre et 2 ou 3%, 2% de noyer. Le noyer, ça se tourne bien, ça se sculpte surtout très très bien, parce que ça a un beau veinage et un grain serré. Même le hêtre, ça se tourne très bien aussi, parce qu'il a un grain très serré et il est très dur. Par contre, il était sujet à la vermoulure, mais aujourd'hui on peut le traiter, donc ce défaut-là, il est en passe de disparaître, du moins, si c'est traité. Voilà, là, tu vois, il n'y a plus de soleil. Alors là, dans un petit moment, le soleil baisse. Là, il faut rentrer ou bien se couvrir, parce que sinon, ici, on attrapait les puntours et dans les temps. C'était des espèces de pneumonie où on s'en sortait pas. Quoi. Le bronchite, je sais pas exactement, mais quand on transpirait, qu'on prenait froid comme ça, les paysans ils mouraient d'une puntour. Je me fais penser, là, il est arrivé un Argentin il n'y a pas longtemps, il s'est mis à travailler. Alors évidemment, il travaillait, et puis il a attrapé la crève. Hein. J'ai dit qu'il a attrapé la puntour, hein, parce qu'il est resté, après que le soleil soit parti, il transpirait et il a pris froid. Hein. Après, il toussait, il était très pris en bronche. Hein. Voilà, donc maintenant, on va peut-être rentrer. Voilà, allez, venez, je vous montre un peu. Alors là, je vais vous montrer un peu mon... C'est à la fois les salles d'exposition, le débarras, l'entrepôt, le dépôt de vivres. Voilà, là, il y a un peu de tout ce que je fais. Hein. Voilà. Le sèche-linge de ma femme, parce que ça, il tient quand elle monte. Le congélateur aussi, parce que c'est des jeux d'air. Alors beaucoup, je fais, voilà, la chaiserie que je fabrique, c'est ça, hein, vous voyez. Là, par exemple, c'est une chaise d'enfant, une chaise haute. Là, c'est des anciens prie-dieu que j'ai récupérés, que je restaure petit à petit pour une église. Là, il y a une chaise copie du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Là, ça s'appelle un servidor. Là, il manque la vasque, mais c'était un truc avant qui servait pour se laver les mains. Il y avait des lave-mains parce que les gens, quand même, ils avaient aussi de l'hygiène. Donc, ils savaient qu'il fallait se laver les mains avant et après de manger. Surtout, des fois, ils mangeaient avec les doigts, hein, souvent même. Voilà. Donc là, il y a un vieux rabot, je dirais. C'était pour dégrossir. C'est avec ça qu'il dressait les planches avant. Il n'y avait pas de raboteuse. Hein. Donc, c'était un travail très physique, hein, ça. Hein. Bon, et ce qui était bien, ce qui était important, c'était quand les ségantines, les gens qui sciaient les planches, s'y sciaient très bien, si c'était bien scié, s'il n'y avait pas trop de défauts. Alors, à ce moment-là, ça facilitait le travail de celui qui aplanissait le bois. Hein. Voilà. Je voudrais faire une petite collection de meubles anciens pour aller les présenter dans les foires ou dans les écoles. Ça aussi, c'est pour sensibiliser un peu les gens au mobilier traditionnel corse. Voilà. Après, bon, voilà. Et après, il y a le genre de fauteuil que nous faisons. Voilà, ça, c'est un fauteuil d'église ou alors un fauteuil de jour. Ça, c'est un fauteuil qui est très travaillé. Hein. C'est date du 18e et puis même avant du 18e, 17e siècle. Hein. Ça, ça vient du baroque, un peu des églises. Après, ça a été pris par les gens de l'époque, les gens aisés, les commerçants. Ou les jours. Voilà, donc il y a des palmettes, voilà, il y a des feuilles d'acanthe, il y a des faunes, c'est-à-dire que certains aussi, on voit, ça a l'air d'être des plantes, et en même temps, on montre un visage ou un animal, la silhouette d'un animal. Voilà, par exemple, ça aussi, il faut que je le restaure un jour, parce qu'il manque. C'est un vieux canapé paillé, voilà. Donc là, il faut le restaurer. Donc il faut le traiter contre les vers, parce qu'il y a un vermoulure qui s'y est mis. Après, il faut mettre du durcisseur, parce que ça durcit le bois, hein, ça le maintient. Hein. Thank you. J'achète des vieilles tables de nuit. Pourquoi ? Parce qu'avant, dans les chambres, il y avait le lit contre le mur et une table de nuit. Et puis ça s'est démocratisé. Donc les couples ont droit à deux tables de nuit maintenant aujourd'hui. Oui. Et alors, beaucoup de gens cherchent la seconde table de nuit. Alors moi, j'achète plusieurs modèles différents et puis je les restaure et tôt ou tard, je sais que je les vends. Hein. Et en même temps, je gagne un peu d'argent et je rends service à des gens. Ça évite peut-être les scènes conjugales. Voilà. Peut-être un pacificateur. Voilà. Et là, il y a mon ami Jean-Pierre Graziani qui a les éditions de Chismonte Poumonte. Alors, des fois, quand les gens viennent là, voilà, il y a quelques livres en vente. Hein. Il y a les miens, puis il y a ceux de ceux qu'il produit lui. Hein. Il y a aussi des livres en langue corse, surtout, en français aussi. Il y a des fois, il y a des enregistrements. Voilà. Là, c'est Jean et Terre d'Orit. C'est la traduction d'un livre Filet Toritzik qui a coûté. Que j'avais écrit en Corse, ça fait longtemps, mais en 88 quand même. Et après, j'ai traduit, parce que quand j'étais opéré de la colonne vertébrale, j'étais immobilisé pendant quelques mois. Et donc, pour me passer le temps, j'ai traduit en français, voilà. Et je le vends, finalement, parce que ça intéresse des gens. Hein. Terre et Jean d'Orit, ça, c'est un peu des récits des souvenirs d'enfance et d'adolescence. Quand, à l'époque, on vivait encore ici, au village, nous étions une famille de paysans comme les autres, hein, et où on vivait encore un peu en autarcie, un peu... dans les mêmes conditions pratiquement que le XVIIIe siècle, ou même avant, à part que bon, on commençait à avoir l'électricité, l'eau, et puis après, plus tard est arrivée la télévision, après on a eu le téléphone. Donc, mais au départ, c'était les veillées qui se faisaient au feu de bois, c'était un peu la seule réunion, je dirais, il y avait un côté culturel, des transmissions orales de nos contes, de nos histoires, des contes, des histoires de famille, aussi comment s'organisait la vie avant ici, et puis aussi comment les gens aimaient bien rire aussi de temps en temps. Et puis des fois, il y a aussi des histoires plus tristes aussi, bon, voilà, c'était un peu le quotidien des villageois de l'époque, des années 60, voilà. Après, à partir des années 70, il y avait un exode très important vers les villes, et puis il y a eu ce système de la société de consommation qui est intervenue aussi ici, rapidement, et un peu toute cette vie en autarcie qu'on faisait, où les gens plantaient, élevaient des animaux, travaillaient un peu, faisaient un peu d'artisanat, ben ça a pratiquement tout disparu, quoi. Il n'y a plus que des souvenirs et des témoignages encore de gens qui sont encore vivants, et peut-être encore dans quelques villages, des gens qui vivent un peu encore comme ça. C'est la relation qu'ont les gens d'ici d'Oritz avec les châtaigniers, hein. Parce que le châtaignier, ici, on n'a jamais connu la famine grâce au châtaignier. On a résisté, et puis ça permettait aussi des révoltes, parce qu'on pouvait se nourrir, faire des stocks, et tant qu'il y avait des stocks, on pouvait avoir des révoltes contre les Génois, les Français. D'ailleurs, eux, ils ne se sont pas privés de couper les arbres, puis bon, après, ils s'apercevaient qu'il fallait arrêter, parce que la famine, ça entraînait des révoltes, encore pire, hein, c'est désespéré en plus. Voilà, mais le châtaignier, ici, c'est l'arbre roi, hein, voilà. Je dis, le châtaignier, il nous donne à manger, il nous chauffe... il nous met à l'abri. En plus, on peut faire de la vannerie avec. Il y avait une vannerie, c'était une activité très importante parce que tout ce qui était emballage, c'était du châtaignier. Il y avait des corbeilles, des paniers. Hein. Voilà. Donc, le châtaignier a servi à beaucoup de choses aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Donc, là, maintenant, la châtaignerie est en très mauvais état. Hein. Mais bon. Il y a encore quelques-uns quand même ici, par exemple nous, dans notre commune, il y a encore 4 producteurs de farine de châtaigne. Bon, pour un petit village où nous sommes 33 habitants, il y a quand même, je dis que par rapport au nombre, nous travaillons beaucoup plus que les gens de la ville. Il y a beaucoup plus d'actifs, je dirais. Parce qu'il y a quand même des gens encore ici qui ont des activités, hein, même s'ils sont à la retraite, soit de l'élevage, soit du jardinage, comme avant. Il y en a qui font la farine de châtaigne aussi. Donc, il y a beaucoup quand même de gens actifs dans la commune. Voilà. D'abord, le châtaignier, en Corse, on le retrouve déjà à l'état endémique, c'est-à-dire c'était une forêt à l'état de nature. On l'a retrouvé il y a très longtemps, des milliers d'années. Hein. Et après, ça a été, bon, on dit les Romains, mais avant les Romains, il y a eu quand même aussi, on oublie beaucoup, c'est les Étrusques qui avaient commencé déjà à planter. Et après, il y a eu les Génois qui ont planté, qui ont fait une mise en valeur. Il y a eu une mise en valeur, comme je dis, quand ils obligeaient les gens à planter des châtaigniers, c'était une forme d'impôt. Pourquoi ? Parce que le châtaignier, ça nourrit, c'est un aliment complet, parce qu'il n'y avait pas de blé. Ça remplaçait le blé, voilà, parce que les plaines étaient devenues insalubres. Et on s'aperçoit que le châtaignier, son déclin, c'est quand ? C'est au 19e siècle, quand on commence à y avoir l'énergie vapeur, il y a les trains. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'énergie vapeur, ça permet les trains, ça permet les bateaux à vapeur, ça permet de transporter les engrais et d'enrichir les plaines qui font de blé. Donc le blé commence à être produit en quantité et il circule. À ce moment-là, à un moment donné, petit à petit, pas simplement en Corse, même en France, hein, et même en Italie, on voit que le châtaignier est abandonné au profit du blé. Les gens commencent à manger le pain. Mais ici, oui, parce que le terrain s'y prêtait bien, parce que moi je dis, la terre, la nature de la terre aussi, dans sa composition, ça se prête bien. Et aussi, il y a de l'eau. Il y a de l'eau et c'est un climat très tempéré. Il y a la fraîcheur au Ritz. Voilà, donc c'est pour ça que... Et aussi, c'était très peuplé. Ça a été peuplé aussi parce qu'on pouvait nourrir cette population grâce au châtaignier. Et aussi, le fait qu'il y ait du monde, ça permettait un travail sur la forêt de châtaignier. Donc on voit qu'une chose et l'autre, il y a une dépendance, quoi, finalement. Hein. Et après, donc, ça permettait aussi d'aller échanger ailleurs, dans d'autres régions, l'huile en Balagne, le vin dans le Nebbio. Bon, il y avait aussi quelques régions où ils faisaient un peu de blé, on pouvait faire un peu d'échange de blé. On vendait les châtaignes pour nourrir les animaux aussi, on a oublié, mais... Beaucoup des châtaignes sèches servaient à nourrir les animaux, à les engraisser, donc et à nourrir bon, les porcs, mais même les animaux de bas, les ânes, les mulets mangeaient des châtaignes. Donc aussi, ça avait de la valeur, ça. Donc ça s'échangeait avec d'autres régions. Après, il y avait le bois. On transportait aussi du bois pour les villes aussi. Avant le charbon, ils avaient besoin de bois. D'ailleurs, moi, si on va à Corté, il y a des immeubles très, très anciens où les escaliers sont très larges et pas très élevés. Les marches d'escalier sont très bas. Pourquoi ? Parce qu'on chargeait, c'était des petits ânes qui montaient jusqu'au 5e, 6e, ou ça, livrer le bois. Voilà, ça, c'est des choses qu'on ne sait plus, quoi. Donc on voit que le bois aussi, c'est important. Hein. Et aussi, ils exportaient du bois en Italie, et donc, les planches aussi. Hein. Pour rénover la châtaigneraie, il faut compter sur 10-20 ans. Pour sauver déjà les arbres, après il faut replanter. Alors quand on plante un arbre, un châtaignier à maturité, bon d'abord nous c'est des arbres fruitiers, donc les gens ils n'aimaient pas couper leurs arbres, parce qu'au moins jusqu'à 150 ans ils pouvaient en avoir. Donc il faut s'imaginer un arbre qui produit pendant 150 ans ce que ça rapporte. En bois de chauffage, parce qu'il y a les branches qui tombent, on coupe du bois, et en fruits. Chaque année, hein, c'est sur 150 ans au moins. Parce que alors avant ils coupaient très tard les arbres, parce que tant qu'ils étaient productifs, ils privilégiaient le fruit. Donc après, il y avait une sorte d'écrémage où ils coupaient du bois qui arrivait à maturité. Parce qu'à un moment donné, un arbre aussi, il arrive à maturité. Donc avant qu'il se dessèche et qu'il commence à tomber malade, parce qu'il y a une perte de qualité à ce moment-là. Il était bon de le couper, d'en replanter. Et ils en replantaient un autre aussi. Il faut voir que ça aussi, on ne coupait pas. On coupait, oui, mais on replantait. Et on élevait parce que ça redonnait des châtaignes et ça redonnait du bois. Donc ça s'est perdu. Donc maintenant, il y a une rénovation, des opérations importantes de rénovation, mais il faut attendre très longtemps. Et après, il y a tous les savoir-faire. Par exemple, moi, je dis, moi, je travaille du châtaignier. On ne travaille pas le châtaignier comme on travaille le lariche ou comme on travaille le bois africain. C'est des méthodes différentes. Même si on fait les mêmes gestes, si on a les mêmes machines, il y a quand même une adaptation importante à avoir, qui a lieu. Donc aussi, il faut reprendre aussi tout un travail, tout un savoir-faire, parce que c'est ça le savoir-faire. Hein. C'est quand on connaît bien le matériau, qu'on sait toutes les techniques, en étudiant quotidiennement et tout, on le connaît bien et on le valorise le maximum. Voilà. Donc moi, par exemple, je n'ai jamais travaillé de bois africain. Pourquoi ? Parce que j'ai travaillé avec Abel. Et aujourd'hui, il y a des générations de menuisiers qui n'ont jamais travaillé de châtaignier, ni de hariche. Ici, le châtaignier, il est d'abord planté pour faire du fruit. Donc la bille n'est pas très haute. On la taille en taille très bas. À 2 mètres, on commence à greffer parce que les fruits de l'année viennent sur les branches de l'année qui poussent chaque année. Donc l'intérêt que nous avons, c'est d'avoir beaucoup de feuillage. Donc les billes ne sont pas très hautes, elles ne sont pas très importantes. Par contre, elles ont de très beaux dessins, elles sont très vénurées. Voilà. Et après, il y a ce qu'on appelle le châtaignier bâtard, c'est le châtaignier qui n'est pas encore greffé. Et ça, on s'en sert beaucoup pour les charpentes. Ou alors, on s'en sert aussi un peu pour le bois à l'extérieur. Il tient beaucoup mieux que le châtaignier greffé. Donc le châtaignier greffé, on le réserve plutôt à l'intérieur. Pour les meubles, les menuiseries, les planchers... Thank you.
Léon Alessandri est votre invité. Nous sommes à Nogario, en Castagniccia. C'est reportage.
Châtaigneraie, c'est un arbre fruitier. Hein. Donc il faut le planter, il faut l'élever, il faut le tailler, il faut le greffer, il faut le débroussailler, il faut ramasser les châtaignes. Donc cette forêt, c'est les hommes qui l'ont faite hein, pendant des siècles. Hein. Et sous les Génois, il y avait une forme d'impôt, c'était qu'il fallait planter 3 arbres par an. Même de l'olivier ici, on a planté, ou la vigne, ou ailleurs de l'amandier, pas ici, pas trop d'amandier. Mais ici, surtout du châtaignier, parce que d'abord, le sol aussi s'y prête bien. Hein. Voilà. Et il y a de l'eau aussi, c'est ça qu'il faut voir. Hein. C'est qu'ici, c'est très arrosé. Hein. Donc tout pousse ici. Ici, quand vous faites le jardin, on s'inquiète pas. Hein. Donc il y a de l'eau, il y a du soleil, la terre est grasse, on avait pas mal d'engrais. Aujourd'hui, on appelle ça le compost. Mais moi, j'ai jamais connu des engrais chimiques ici dans le village. On faisait le fumier, on mettait du fumier. Aujourd'hui, on dit du compost. Bon, c'est un peu différent, mais c'est la même chose. Hein. On utilise des mots aujourd'hui nouveaux qui recouvrent des activités anciennes et naturelles. Donc il y en a qui croyaient avoir tout inventé il y a 10 ans. Ça a toujours existé. S'ils vivaient déjà dans les villages, dans les campagnes, il serait que ça existait déjà avant. Hein. Le bio, c'est... Moi, j'ai toujours connu le bio. Quoi. Enfin, je veux dire, ça paraît extraordinaire. Alors que le bio, moi, j'ai toujours connu le bio. Hein. Voilà, c'était ce qu'on plantait. Il n'y avait pas le terme, non, on plantait. Voilà, on mettait du fumier, on mettait de l'eau, de la sueur... Du temps, on entretenait bien, c'était bien entretenu, il y avait un savoir-faire, et il y avait une répartition entre les hommes et les femmes, bon, on dit souvent. Mais par exemple, les hommes piochaient, ils bêchaient, et ils plantaient par exemple les pommes de terre, et après les femmes venaient, on disait, ça poutia, ouais, elles butaient le terrain, les enfants arrosaient, ou les femmes, et après, bon, autant de la cueillette, bon, par exemple, tout le monde s'y mettait, par exemple, moi je me rappelle pour ramasser les haricots sur les échalas, tout le monde s'y mettait, après il fallait les écosser, tout le monde s'y mettait, puis voilà, il y avait à la fois une répartition des tâches, et en même temps il y avait une participation collective dans les tâches qu'il y avait à accomplir. Hein. On savait ce que c'était le travail, et quand on mangeait, ce qu'on mangeait, on l'avait vu croître, on l'avait planté, on y avait travaillé. Donc c'était un peu différent de ce que voient les enfants aujourd'hui en boîte, et ils n'ont qu'à ouvrir le frigidaire. Avant, dans le bois corse, comme il est séché naturellement, le tanin, c'est une espèce de répulsif naturel. Ça fait que les vrillettes, quand ils attaquent le bois, au bout de quelques millimètres, ou elles meurent ou elles s'en vont. Quoi. Voilà. Et donc, moi, c'est pour ça que j'aime bien travailler encore du bois. Et après, il y a l'odeur aussi. Ça lui donne encore une odeur très forte. Hein. Donc, le bois de châtaignier, c'est un bois très clair. Et je dirais aujourd'hui, on peut même s'en servir pour dans les appartements modernes. Moi, je fais beaucoup de plans de travail parce qu'il a un jaune très clair, lumineux, radieux, je dirais. Et ça passe très bien avec même du moderne, hein, avec dans les appartements modernes. Voilà, surtout que maintenant, on revient beaucoup aussi au plancher, au parquet flottant. Voilà, donc on voit que les gens ont besoin quand même... Bon, c'est plus intéressant économiquement, mais même on est bien dans un décor où il y a du bois. Hein. Ça, c'est certain, c'est plus chaud. Hein. Bon, là, il n'y a que 4 vis et un peu de colle. Là, par exemple, les montants là, c'est quelqu'un qui m'a donné du bois. C'était des douves de tonneaux qui avaient été faits avant-guerre. Donc c'est un bois très très ancien qui était dans une cave. Et avec ça, je vais faire une dizaine de fauteuils. Après, c'est tout des morceaux de récupération, de plancher démonté. Ou alors, j'ai un peu de bois d'ici, de la vallée d'Oritz. Voilà. Alors, des fois, le bois il est un peu touché, mais voilà, on voit qu'il y a une petite attaque. Alors, c'est du bois neuf, hein, c'est du bois récent. Celui-là, par exemple, c'est du bois récent. Et celui-là, mais alors, il y a tous ces petits trous-là. Voilà. Mais le bois n'est pas pourri quand même, mais c'est juste en surface. Voilà. Donc ça, on peut dire que c'est un meuble pratiquement du 18e siècle. Mais je pourrais le vendre en tant que tel, mais je ne le fais pas. Là, j'ai passé la cire. Alors là, il y a juste une teinte de la cire. Ah, alors, cire châtaignier. En fait, le châtaignier, c'est des couleurs. On dit cerf châtaignier, non, foncé, chêne et tout ça, mais ça n'existe pas. Voilà, ça c'est du châtaignier. Voilà, ça c'est du bois corse. Là, d'ici. Il est d'ici, il a été séché dans la cave celui-là.
Il y a Belle qui t'empara de tout.
J'avais toujours la passion du bois parce que dans ma famille, ils travaillaient le bois aussi. Et j'ai toujours entendu parler, mais disons, chez nous, à un moment donné, il n'y avait plus d'hommes parce qu'ils étaient tous morts. Donc la tradition du travail du bois chez moi, ça s'est perdu pendant une génération. Voilà, et après, heureusement que je suis tombé sur Abel, qui m'a permis une formation, hein, qui m'a donné une formation, et ça m'a permis de m'installer ici. Hein. Abel, il m'a permis de m'installer au village, parce que j'ai trouvé du travail ici, finalement. Hein. En travaillant le bois, je peux vivre au village. Voilà. Donc moi, j'aime beaucoup Abel pour ça. Hein. Et puis il m'a appris, et puis la passion qu'il avait du bois, tout ce qu'il savait, il me l'a appris. Hein. Voilà, donc, là, du coup, ensemble, nous avons fait un livre sur le mobilier traditionnel de Corse, parce qu'il n'en existait pas. Hein. Donc on a voulu montrer que ça existait, qu'il y a eu des gens pendant des générations qui ont fabriqué du meuble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ici, 99% du bois était fabriqué, des meubles étaient fabriqués en Corse. Hein. Tout ce dont nous avions besoin, tout le bois, on n'importait pas de bois. Au contraire, on l'exportait même très loin. Hein. Bon, le plus près, c'était l'Italie, parce qu'on dit même que le dôme de Florence a été construit avec des matériaux du bois corse, et que même des gens qui travaillent le bois étaient partis travailler là-bas. Donc ils étaient reconnus en tant aussi que dans leur profession. Donc la qualité des artisans était reconnue. Hein. Pourquoi ? Parce qu'en Corse, très tôt, moi je pense que le bois a été travaillé parce que ça a commencé avec la marine. Hein. La Corse était un endroit de relâche, donc il y avait du beau bois, et les charpentiers, les marins charpentiers réparaient ici leur navire. Voilà, donc il y a une très très ancienne tradition du bois. Et après, le bois, on l'envoyait, moi je le dis, pour le barrage d'Assouan dans les années 50, pour le coffrage, ça c'était plutôt le Larichou. Et après, ils ont fait les traverses pour les chemins de fer. On parle de, je crois, du Pays de Galles et puis même de Djibouti. Donc on a exporté du bois, on n'importait pas de bois. Il y a eu que dans les années 60, à un moment donné, le bois commençait à arriver d'Afrique. Il y a eu un bateau ou deux entiers. Et à ce moment-là, ça a cassé les prix et beaucoup de petites scieries ont fermé. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on importe tout le bois. 90% du bois est importé. Voilà. Et maintenant, on s'aperçoit que ça devient cher, le bois importé, parce que les forêts tropicales qui étaient naturelles, ça commence à s'épuiser. Il y a des guerres. C'est cher parce qu'il y a le transport. Donc le carburant est plus cher. Et donc on s'aperçoit maintenant que le châtaignier est redevenu meilleur prix que le bois africain, par exemple. Voilà, là, il y a un inverse. Depuis quelques années, il commence à y avoir une inversion. Donc aujourd'hui, beaucoup d'artisans disent aujourd'hui, oui, le Larich, on va essayer de travailler du Larich, ou même pour faire des meubles, le châtaignier, bon, le hêtre aussi que nous avons qui n'est plus. Donc il y a un renouveau, hein, voilà. Il y a des scieries qui, bon, sont en train de repartir un peu. Hein. Nous, on a un projet de scierie aussi, on va faire une scierie sur le châtaignier, rien qu'en pour travailler du châtaignier, hein, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a du besoin, hein, il y a de la demande. Hein. C'est certain que si on vend du bois et qu'il est de qualité et à meilleur prix, les gens l'achètent. Hein. Voilà, hein. Ce qui a été notre perte il y a quelques années, aujourd'hui, ça redevient un atout. Hein. Voilà. On parle de développement durable, mais aussi économiquement, il faut se dire que les produits, quand on les a sur place ou pas loin, c'est plus intéressant que de les faire venir de très loin. Bon, évidemment, pendant des années, il y a des gens qui ont été exploités ailleurs pour pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est la Chine, avant c'était l'Afrique. Mais on s'aperçoit que finalement, le produit qui est ici utilisé sur place, on produit, on fabrique, disons, on donne de la valeur ajoutée, il prend de la valeur. Voilà. On sait qu'un produit fini, il voyage beaucoup mieux aussi qu'un produit brut. Hein. Là, c'est des lois économiques. Hein. Alors, au début, c'était des objets utilitaires pour les paysans d'ici. Par exemple, ils faisaient des soies en bois, on appelait ça les secs. Et puis après, bon, ils sont arrivés les soies en fer blanc du continent, pas très chers. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les artisans du coin, ceux qui travaillent le bois, il a fallu qu'ils s'adaptent. Et donc, ils ont commencé à produire des objets souvenirs pour la source d'Ohrid, qui était une source thermale à l'époque. Donc, il y avait des thermalistes qui venaient. Et à ce moment, ils ont fait des coquetiers, des porte-cigarettes, des boîtes à bijoux, des sucriers, ils ont fait des coupes papier, Voilà, ils ont fait tout un tas d'objets qu'ils ont avec gravés au Ritz. Et donc, ils se sont recyclés comme ça. Et les derniers ont disparu il n'y a pas longtemps, de pipiers et gens qui travaillaient comme ça, qui travaillaient souvenirs d'au Ritz. Voilà. Moi, j'en fabrique encore quelques-uns, mais bon, pas en quantité comme eux, parce que certains, c'était leur activité hein, de faire ça. Il y avait des gens qui étaient pipiers à l'époque. Il y avait des tamisiers aussi, par exemple. Alors maintenant, aussi souvent, on me demande ce travail-là. C'est de... Parce qu'il y a encore des casiniculteurs, et donc on me demande de restaurer pas mal de tamis ou de cribles ou de sas, parce qu'ils travaillent encore la châtaigne, les casiniculteurs par exemple. Là, je vais avoir 7 ou 8 tamis à restaurer. Alors je le fais parce que ça m'intéresse le plus. Et c'est pas là où je gagne, mais bon, comme ça aide des gens qui ont une activité ici, donc c'est une sorte de solidarité que je m'adapte aussi. Enfin, je rends service plutôt là. Voilà. Il y a très peu de machines, elles ne sont pas très... Je n'ai pas beaucoup de machines très, très sophistiquées parce qu'en fait, moi, je fais beaucoup de travail manuel, de la restauration. Je travaille avec des outils à main ou électroportatifs. Donc, j'ai 4 ou 5 outils de base qu'on trouve dans tous les ateliers. Bon, après, il y en a qui sont plus importants ailleurs et plus sophistiqués. Bon, par exemple, là, je suis en train de faire une table en châtaignier. Elle va être ronde. Voilà. Donc, c'est pour une dame qui m'a commandé 3 meubles traditionnels. Alors, je vais faire ça. Après, je vais faire une série de pétrins. Parce que les pétrins aussi, c'est ce qui se vend encore le plus. Et puis, je vais lui faire un sofa. Voilà. Alors, après, on prépare toujours des pièces de bois. Parce qu'un meuble, c'est un puzzle. On commence à préparer les pièces. Et quand les pièces sont faites, en plus ou moins, hein, on ne fait pas de montage définitif. Ni on le colle, ni on le cloue, ni on le cheville. Et donc, quand tout va bien, on redémonte, on reponce, on renettoie tout. Et on fait le montage. Et après, on fait la finition. C'est-à-dire, on teinte, on cire. Bon, des fois, on met du vernis. Moi, je fais beaucoup de cire. Hein. Mais des fois, on met du fond dur. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont un peu plus exigeants. Ils n'aiment pas qu'on voie des marques. Des empreintes de verre sur les tables, donc voilà. Donc là, je fais un fond dur, il faut sacrifier. Bon, c'est un petit, on déroge un peu à la tradition, mais bon, ça va, ça rend service à tout le monde. Voilà. À côté, après, j'ai ma pièce où j'ai tour à bois. Voilà. Les tours à bois, c'est là, j'en ai 3 ou 4, enfin, j'en ai 4 en fait. Bon, là, je fais les montants des chaises, je fais des montants de chaises par exemple. Là, il y a Je fais des montants de chaises, je fais des petits objets en tournée encore de temps en temps, je fais les barreaux, je tourne les barreaux. Qu'est-ce que je fais? Bon, après, en autre activité, alors là, j'ai des dessins. Là, en fait, c'est comme chez le tailleur. J'ai des dessins et je prends les gabarits, je prends les mesures, je fais les barreaux, je fais les montants. Là, je suis le dernier chaisier qui a au Ritz. Et même peut-être dans toute la Corse, il n'y a plus que moi qui fais des chaises tournées et paillées. Voilà. Bon, j'ai appris à d'autres gens, mais bon, des jeunes. Hein. Et puis bon, finalement, il n'y en a personne qui a repris hein, pour l'instant. Hein. Je fais aussi des bâtons de randonnée, voilà, parce que ça se vend bien, parce que c'est porteur, parce que depuis longtemps, maintenant ici, depuis quelques années, il y a à peu près 200 km de randonnée. Donc on voit de plus en plus de gens qui se remettent à marcher, c'est bon signe, hein, tant mieux, c'est même bon pour leur hygiène. Puis je fais aussi, je suis producteur pendant longtemps, j'avais le monopole du poulain d'ail. Le poulain d'ail, c'est le bâton à polenta, ça sert à faire la farine, à retourner, à malaxer la farine de châtaigne avec de l'eau pour qu'elle cuise bien. Et puis il n'y a pas longtemps, je dirais que j'ai un concurrent, mais je suis content de l'avoir, parce que je commençais à en avoir marre de tourner des poulains d'ail. Tous les ans, j'en faisais des centaines, mais j'en ai fait des milliers depuis que j'ai commencé. Et là, je rends service à beaucoup de gens, parce que s'il n'y a pas ça, on ne peut pas tellement faire de poulain. Et là aussi, c'est un peu aussi un coup de main que je donne aux casiniculteurs et à tous les gens qui veulent encore consommer des produits corses. Quoi. Voilà. Et ça m'occupe bien tout ça. Puis je fais de la restauration de meubles, d'églises, et puis de la restauration de meubles anciens. Hein. Voilà, donc ça me prend pas mal de temps.
Léon Alessandri, l'ancien prisonnier politique, feuillette l'album de ses souvenirs. Avec nous, nous sommes à Nogario, en Castaniche.
J'ai du whisky, j'ai du limoncello, du cognac. Non, ça c'est quoi ça? C'est pas du cognac, ça on me l'a offert. Alors, des fois les gens, parce qu'ils m'ont offert, c'est un armagnac. Voilà. Alors là, bon, quand je suis seul, je ne bois pas trop, hein. Je ne bois pas du tout même. Mais bon, pour l'été, on a des réserves, voilà. Le limoncello, c'est mon frère qui fait. La liqueur de la châtaigne, c'est mon frère. La liqueur d'orange, c'est mon frère. Voilà, donc ça, c'est avec des produits du coin. Qu'est-ce que vous voulez boire? Du café, je ne vous en donne pas parce que je ne bois pas et je n'aime pas en faire. Là, c'était quand j'étais en Moulins. Donc, on avait une équipe, on jouait en corpo. Et les équipes venaient de l'extérieur jouer contre nous. On est arrivé en finale. On avait un entraîneur qui venait de l'extérieur. On lui donnait quelque chose, on payait parce qu'on cotisait. On avait une association, on cotisait quelque chose, on lui payait ses heures. Donc, on faisait des matchs. Et alors, on est arrivé en finale, mais comme on ne pouvait pas sortir à l'extérieur, on n'a pas joué. Mais par contre, on avait demandé à jouer contre le gagnant. Et on a battu le gagnant aussi. Voilà. Donc, moi, j'étais arrière central. Il y avait un autre Corse avec moi qui est mort depuis longtemps d'une crise cardiaque. Voilà, donc c'était l'équipe de Moulins. Hein. Voilà. On avait un terrain, hein. Bon, le terrain il était plus long, mais c'était un terrain aux normes. Hein. Voilà. Alors il y avait deux goals. Alors un était tout petit, Momo c'était un truc, et l'autre il était grand. Il disait qu'il avait joué dans sa jeunesse à Saint-Étienne, où il avait presque 60 ans, on l'appelait l'araignée. C'était un type qui était grand. Mais alors il fallait voir, tu vois. Et l'araignée, donc il se tirait la bourre entre Momo et l'araignée, tu vois. Voilà. Après il y en a, un type de la banlieue sud, ça aussi c'est banlieue sud, celui-là c'est un Marseillais, après ceux-là c'est des Lyonnais, voilà. Là par exemple, tu vois, ça c'est encore une chose qui vient de Saint-Maur. Noël Luciani, Pierre Albertini, là c'est un type qui s'appelle Imbert que j'ai pas connu, et là c'est un type qui s'appelle Gérard Franck et que j'ai pas connu, qui est mort aussi, c'est un voyou, il a été assassiné, eux ils sont morts. Alors là il y a un petit vieux qui s'appelait Casanova, il était compromis dans l'enlèvement de la femme de Renault ou un truc comme ça, Dassault, voilà, lui c'est le vieux Casanova. Voilà, donc là c'est Pierre, joue au ballon. Alors là c'est Pierre Lorenzi. Pierre Lorenzi qui en prison a appris le solfège et qu'en sortant il a chanté pendant des années à l'Opéra de Toulon et de Monaco. Voilà. Et puis après il a monté une école de chant. Jean-Michel Rossi, puis Paul Cecaldi, Poitevin, je suis le parrain de sa fille. Là, c'est le jour de l'Aïd avec, bon, là, c'est un Corse, mais là, c'est les Arabes qui nous avaient invités, tu vois. Là, j'avais fait une table basse au Ritzink que j'avais offert à mon avocate Bellagrambe. À Marielle et Mathieu, je lui avais offert un miroir. À mon filleul, j'avais fait un cheval à bascule. Par exemple, là, c'est quand j'ai eu le prix du livre Corse, j'étais absent, donc c'est Renato Gotti, Rocco Multedo et ma mère qui ont reçu le prix. Bon, là, je suis avec un Italo-Grenoblois. Celui-là, c'est un Marseillais, un Parisien. C'est un braqueur. Bon, là, c'est tous des braqueurs, pratiquement. Là, c'est un Arménien qui il faisait partie de la Salah. Là, il a été libéré, il est en Arménie. Parce que lui, une partie de son pays est indépendante. Là, c'est un militant, Lucien, Lulu. Là, c'est un Palestinien. Il y a aussi un Basque, mais je ne l'ai pas en photo. Voilà. Et là, c'est quand on est sorti avec Bernard, on avait donné une interview devant la statue de Pascal Pal à l'escalier des marches de l'Opéra, qui monte à l'Opéra. Alors, j'en ai d'autres aussi. J'essaie de classer un peu parce que sinon, les photos finissent par s'abîmer, sans plus classer, après on oublie les noms et un tas de trucs, parce qu'avec la mémoire, avec le temps qui passe, on oublie. Hein. Alors, je vais faire des trucs pour mon fils, pour ma famille aussi, pour que. Par exemple, j'ai une de mes tantes avec la chienne qu'on a perdue qui s'appelait Bianca, toi tu l'as dû la connaître, et que le jour où elle est morte, c'est comme si elle avait perdu quelqu'un de la famille. Puis on n'a plus repris l'animal parce que bon, on s'attache trop et vraiment on a pleuré quand elle est morte. Fermez une seconde. C'est très agréable au printemps et l'été parce qu'il y a de la verdure. Voilà, là on a toujours de la neige à 1000 mètres là. Et cette année on a eu pas mal de neige. On a eu un mètre, puis il a beaucoup plu, et puis c'est revenu, c'est tombé assez bas.
Et sa montagne aussi.
C'est San Pedrone.
Le San Pedrone.
Le San Pedrone, il fait 1768 mètres. C'est une des montagnes les plus hautes d'Haute-Corse. Enfin, il y a le Monte Cinto, mais disons de ce côté-là, qui n'est pas dans la chaîne du Monte Cinto, et il y a un très beau point de vue là-haut. Hein. On voit beaucoup de villes, de villages. On voit l'Italie quand il fait beau. Venez ici, c'est chez moi. C'est un ancien séchoir, la châtaigne, avec un four. Donc, le four s'est effondré, j'ai refait les murs, et puis voilà. Depuis que je suis revenu au village, à peu près il y a 20 ans, c'est ce que j'ai retrouvé, c'est plus la même chose, quoi. Parce qu'on revient avec toujours ce qu'on a connu, et puis ce qu'on a connu, ça n'existe plus. Et à un moment donné, il faut comprendre que ça n'existe plus, et qu'on ne vit plus de la même façon. Hein. Et là, au début, bon, et puis on a des surprises, parce que bon, on veut faire du jardinage, mais on commence à planter autant qu'avant, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les gens ne mangent plus autant que ce qu'on produit. Hein. Des animaux, on se rappelait des animaux, on a toujours un souvenir, ouais, on prend des poules, on prend des vaches, on prend des moutons, on a l'âne, et puis après on s'aperçoit que quand on est seul, les moutons, les poules, l'âne, ça demande du temps, et puis il faut se rappeler aussi que ça demande aussi de qu'on s'en occupe, et souvent, des fois, on a oublié aussi ce que c'est de s'occuper des animaux, hein. Donc il faut un peu tout réapprendre, et puis on s'aperçoit des surprises. Par exemple, quand on arrive, que les poules, la nuit, on arrive en temps tard, et les poules, c'est... n'ont pas été fermés. Bon, il y en a qui ont disparu, après il y en a qui pondent ailleurs, on ne trouve plus les œufs, alors on leur donne à manger, on n'a pas d'œufs, voilà, ou alors on a les brebis, on a des agneaux, et puis quand on n'est pas là, il y a le chien du voisin, ou il y a le renard qui vient qui mange les agneaux, parce qu'on ne peut pas s'en occuper, on n'est pas là, et on les perd, donc là, on s'aperçoit qu'il faut revoir les choses un peu à la baisse. Moi, à un moment donné, j'ai abandonné les animaux parce que je ne pouvais plus m'en occuper très, très bien. Hein. Le jardin, je fais un minimum maintenant parce que, bon, quand on est seul, à un moment donné, on ne peut plus s'occuper de tout. Hein. Parce que ne serait-ce qu'une heure chaque soir, le jardin, à la fin de la semaine, c'est une journée de travail. Donc, après les journées, ça devient du 7 à 8. Elles n'ont plus 7 jours, mais elles finissent par avoir au moins 8 jours. Donc, les journées de 8 jours, on ne peut pas indéfiniment tenir. Hein. Ce n'est pas vrai, il y a une usure qui se fait. Hein. Bon, on s'aperçoit qu'il y a des gens ici, ils n'ont pas la notion de ce que c'est les vacances. Ça n'existe pas. La retraite, ça n'existe pas non plus. Parce que, bon, c'est des gens qui ont toujours... Ici, le quotidien, c'est de faire quelque chose tous les jours. Parce que tant qu'on reste ici, il y a toujours quelque chose à faire. Hein. Il y a même trop des choses à faire. Hein. Voilà, surtout quand on n'est pas nombreux. Donc, c'est du boulot en permanence. Hein. Voilà, il faut s'en aller en fait. Moi maintenant, des fois, une fois ou deux dans l'année, je pars 2 ou 3 jours. Ça fait une coupure, mais ça coupe un peu parce que bon, j'ai pas de vacances. Moi, j'ai jamais su ce que c'est un mois de vacances. Comme ils font les touristes partir un an et un mois ailleurs sans rien faire, je sais pas ce que c'est. Puis je pourrais pas le vivre, ça, vivre comme ça quoi. Mais aussi, quand on est au village, bon, aujourd'hui par exemple, il a fait beau pour moi, j'ai pas travaillé quoi. J'ai pas l'impression d'avoir travaillé, mais j'ai travaillé quand même. Voilà, et puis après, bon, comme je vis plus ou moins seul une partie de la semaine, il faut faire le ménage, il faut faire la bouffe, il faut s'occuper d'un tas de choses, le courrier, et voilà, donc on travaille, mais quand on a fini, on n'est plus dans l'atelier, il y a encore du travail à la maison, il y a des paperasses, parce qu'on est envahi par les paperasses, hein, voilà.
Léon Alessandri est votre invité. Nous sommes à Nogario, en Castagniccia. Ses reportages.
Les reportages de Jean-Paul Luciani sur Frequenza Mor.
La forêt n'est plus entretenue. Il n'y a plus beaucoup de scieries. Il n'y a plus que 2 petits scieurs, du moins Haute-Corse, que je connais, et qui font ça par petite quantité. Et souvent, il n'est pas sec, alors on attend qu'il soit sec, mais le bois n'est pas vraiment encore sec, alors on attend, enfin, voilà. On a des surprises, des froids, et voilà. Bon, c'est vert, mais souvent, c'est du lierre qui les a étouffés, ils sont morts, et c'est le lierre qui donne la verdure, ce qui n'est pas bon signe. C'est-à-dire que pour couper un bel arbre, il faut peut-être, sur 100, il y a peut-être un bon tronc, une bonne bille, quoi. Et donc ça fait, et puis souvent il y a beaucoup de défauts, ils n'ont pas été soignés, donc beaucoup de déchets quand on coupe, hein, on perd beaucoup. Dans le châtaignier, un des défauts du châtaignier, c'est que des fois il y a beaucoup de chutes, beaucoup de pertes, hein, voilà. Il faut faire avec. Moi je réutilise des petites chutes, je fais des petits objets, alors donc je m'en tire encore un peu mieux. Pour faire du côté de l'industriel, le châtaignier souvent, c'est vrai que ça ne se prête pas comme les bois africains, hein, parce qu'il y a des larges plateaux, souvent ils n'ont pas de défauts, hein, mais bon, pour ce qui est artisanat, l'artiste de l'artisanat, ça me suffit, quoi. Voilà. Mais il y a quand même des pertes.
Miserere nostre domine, miserere nostre. Miserere nostre domine, miserere nostre. Miserere nostre domine, miserere.
Je je chine des fois, moi. Des souvenirs de Corse, par exemple, les souvenirs d'Auris, ça, des fois, je les trouve à Marseille. Parce qu'il y avait beaucoup de Corses, et quand ils partaient, ils faisaient cadeau à des collègues, par exemple, à des amis. Et donc là-bas, ça vaut rien. Les gens ne savent pas ce que c'est, ils les vendent pour rien. Donc quand je peux, ou ma sœur est à la cabine de Marseille, elle va là-bas, et elle me rachète des choses pour rien. Après, il y a des choses que j'ai faites moi-même aussi. Hein. Après, il y a des choses, c'est plus des objets d'Auris, mais c'est tellement rare. Ça a été fabriqué industriellement. Par exemple, ça, c'est des boîtes à sel, c'est des boîtes, par exemple, c'est fabrication industrielle. Et j'en ai 3 ou 4 comme ça, mais c'est très rare, parce que ça montre qu'à une époque, il y avait toujours eu un marché du souvenir qui était important en Corse. Il y en a qui datent d'avant-guerre. Et donc, ça, des fois, même les boîtes, ces boîtes-là, elles ont encore plus de valeur que les souvenirs d'Auritz, parce que les souvenirs d'Auritz, il y en a encore beaucoup, alors que celles-ci, elles sont très, très rares. Bon, la qualité est moindre, hein, attention. Hein. Il y a une décoration, par exemple, là, il y a des clous, des vieux clous, bon, mais ça vaut beaucoup, ça a de la valeur. Et chez moi, il n'y avait plus personne qui travaillait le bois. Un de mes oncles est revenu, mais il est tombé, il a eu une attaque, il a été paralysé, et il est mort très tôt, donc il n'a pas pu transmettre. D'ailleurs, il comptait recommencer à travailler le bois, mais à l'époque, il n'y avait pas de CFA, il n'y avait aucun centre de formation en Corse sur professionnel, il n'y avait pas d'université, il n'y avait aucune formation en Corse, au niveau professionnel. Il n'y avait pas de lycée agricole, pas d'université, pas de CFA, il n'y avait rien. Hein. Donc moi, je suis parti à Nice, j'ai fait des études, et puis un jour, j'ai voulu rentrer. Donc pour rentrer ici, moi, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Bon, ma famille n'a pas beaucoup de terrain, puis on est dans l'indivision, c'est toujours un problème. Donc moi, d'abord, j'avais la passion du bois, mais il fallait quelqu'un qui m'apprenne. Hein, donc voilà. Et après, j'ai passé un CAP, et puis j'ai travaillé chez Abel Raclos, et puis j'ai fait des stages de tournage avec un formateur qui venait du continent. Voilà, donc ça m'a permis de m'installer au village. Voilà, sinon il aurait fallu que je fasse ou de l'élevage ou que je fasse de la caséiculture. Bon, et moi, j'avais pas ça pour. J'ai pas assez de terrain, donc. Et puis, c'est compliqué, parce que, pour tout le monde, il faut demander des terrains aux autres, après, on est redevable. Bon, moi, je suis quand même libre. Je pense qu'un artisan, c'est beaucoup plus libre. On est riche, on a des terres, on est plus libre, mais sinon, un artisan est quand même plus indépendant. Hein. Avec Doris, c'était avec les artisans, parce qu'avant, il y avait, jusqu'à avant-guerre, il y avait jusqu'à 400 artisans qui travaillaient, à la fois le bois, le cuir, la terre, le fer. Voilà, dans chaque village, il y avait une spécialité. Tout le monde avait une activité aussi artisanale. C'est-à-dire que quand il faisait mauvais, mais il n'y a pas qu'en ici, on trouve ça en France aussi, ou en Suisse, ou en Autriche. Hein. Donc les paysans, l'hiver, quand il faisait mauvais, ils restaient à la maison, ils fabriquaient quelque chose. Donc il y avait une petite production artisanale qui répondait à leurs besoins souvent, hein, des objets utilitaires tels les sourds en bois, les tamis, les cuillères en bois. Moi, mon arrière-grand-père fabriquait des cuillères en bois. Ça paraît drôle parce que il n'y avait pas de cuillère en fer, parce que le fer c'était cher. Après, c'est arrivé quand ça a été la production industrielle. Donc ils fabriquaient, c'était des paysans. Hein. Et en même temps, ils étaient un peu artisans. Chacun avait une spécialité. Il y avait un village où il y avait beaucoup de vanniers. Ils faisaient pratiquement, dans tout le village, faisaient de la vannerie. Ils vendaient aux gens du coin et ailleurs. Hein. Donc, c'est parce qu'on avait besoin de paniers. La vannerie, c'était très important. Hein. Voilà. On a oublié, hein, parce que toutes les marchandises étaient transportées, soit dans des tonneaux, soit dans des paniers, et ils faisaient des choses différentes. C'est pour ça qu'il n'y avait peut-être pas le stress qu'il y a aujourd'hui, où les gens ne font plus que tous les jours pratiquement le même métier, les mêmes gestes ou la même préoccupation, tandis que là, on travaillait avant selon les saisons, et avec des choses très diverses. On parle de polyactivité, c'est un grand mot, mais avant, les gens faisaient des activités. Au printemps, on commençait à préparer les jardins, après, il y avait l'arrosage. En septembre, en mois d'août, on commençait à débroussailler les châtaigniers. En septembre, on faisait le bois, on rentrait le bois. Donc après, on charcutait. À Noël, il fallait tuer le cochon. Enfin, il fallait, oui, puisqu'on vivait de ça, hein, aussi. Donc il fallait ramasser les pommes de terre, il fallait les piocher pour ramasser les pommes de terre. Bon, mais on piochait pas des mois et des mois, hein, aussi. Hein, donc, moi, je me souviens, moi, j'ai pioché, j'ai ramassé les pommes de terre. Mais par exemple, on se disait, allez, tous les jours... pas au soleil, quand il fait frais, le soir, allez, on enlève 2 sillons, 4 sillons de pommes de terre, voilà, où on se met à 2 et chacun on passe une demi-journée à enlever les pommes de terre et puis on passe à autre chose, l'autre demi-journée on fait autre chose. Et c'est comme ça que finalement, on sciait du bois, on fendait du bois à la main, mais ça ne durait pas des mois, hein. C'était une semaine, 15 jours de travail maximum, à 2 ou 3, hein. Parce qu'il y avait aussi ça, c'est qu'on travaillait à plusieurs aussi, hein. Voilà. Donc, il n'y avait pas... Moi, je veux dire, moi, les gens stressés, c'est maintenant que les gens sont stressés. Hein. Et la santé, quand même, les gens étaient en bonne santé. Hein. Voilà. Et même si on disait on boit, on mange, mais aussi on se développait physiquement, on se dépensait. Hein. C'est sûr. Hein. Thank you. j'aime beaucoup les fougères. Parce que la fougère, quelle que soit son exposition, quelle que soit la journée, elle garde toujours de la fraîcheur. Elle est toujours fraîche. Et en même temps, elle plonge profondément dans les racines, ses racines dans la terre pour trouver de quoi se nourrir. Donc ça symbolise très bien les racines, le passé dont nous avons besoin pour continuer à vivre dans le présent et dans l'avenir. Voilà, donc là aussi c'est tout un symbole, la fougère. Et puis sa verdure, donc ça c'est un côté aussi de vivacité, cette couleur. Et en même temps, c'est ça, ça donne une image de fraîcheur aussi. Voilà. Après, bon, il y a tous les souvenirs que nous avons, c'est quand aussi les fougères, on faisait des petits bouquets et on mettait le feu pour brûler les soies des porcs quand il y avait du charcutage, quand on les abattait le matin. Et ça, c'était les enfants qui faisaient ça. Avec des petits couteaux, donc on brûlait les soies du porc et on raclait avec les couteaux, avec des petits canifs. Et après, c'est les lits de fougères. J'ai connu ça chez les bergers ou quand on va dormir en forêt. Hein. Quand on a ses diabilites, c'est celui qui oublie ses racines, en fait. Hein, c'est ça. La villette, c'est ça. Mais il y a aussi autre chose, c'est que par exemple, autrefois, au Moyen-Âge même, par exemple en Italie, souvent la Corse était représentée par une branche, par des branches très épaisses et très, très denses. Parce que pour eux, la Corse, et puis même aujourd'hui, quand on discute avec les Italiens, pour eux, la Corse, c'est des endroits très sauvages, des forêts sauvages, très obscures, très, très denses. Et donc il y avait déjà ça, déjà à l'époque du Moyen-Âge. Et même quand on discute aujourd'hui, les Italiens, pour eux, la Corse, c'est ça, c'est des endroits sauvages. Est très, très peuplée, très boisée. Et c'est vrai que la Corse est l'île la plus boisée de Méditerranée. Voilà. Il faut voir, par exemple, ici, aujourd'hui, des fois, on parle de déboisement. Moi, j'ai des photos, et puis je m'en souviens quand j'étais enfant. Une partie du San Pedro, on est là, de la forêt. Alors, en bas, il y avait la forêt de châtaigniers, et en haut, il y avait la forêt de hêtres. Et entre les deux, il n'y avait plus rien parce qu'il y avait beaucoup d'animaux. Les gens montaient leurs troupeaux là-haut. Donc c'était très déboisé. Et depuis les années 70, où pratiquement il n'y a plus... Bon, le dernier berger est mort il y a quelques années, mais avant il y avait au moins 4 troupeaux. Moi j'ai connu 4 troupeaux dans la commune. Et depuis qu'ils ont disparu, la forêt originelle, c'est-à-dire le chêne, est revenue. Et repousse. Et donc chez nous, aujourd'hui, le San Pedro, il est plus boisé qu'avant les années 70. Voilà. Donc, et on s'aperçoit aussi d'une chose aussi, quand on est un peu observateur, c'est qu'avant, maintenant, on voit du chêne autour des villages. Pourquoi ? Parce qu'autour des villages, avant, il y avait les terrasses qui étaient cultivées, entretenues. Et à partir du moment où s'est abandonné tout ça, qu'est-ce qui se passe ? Là, on le voit très bien au village de chez moi. Et puis, on a des photos aussi. Moi, des photos des années 70. On s'aperçoit que c'est le chêne qui revient. Alors qu'avant, il n'y avait pas. Maintenant, on a une couronne de chêne autour des villages. Alors qu'avant, ça n'existait pas parce qu'il y avait les terrasses. Voilà. Ça, c'est la preuve de l'abandon des villages et de l'entretien des terrasses. Des fois des journées où il n'y a personne, hein, et surtout l'hiver. Mais enfin, moi, ça ne me dérange pas aussi, parce que des fois, j'aime bien bouquiner, je lis, j'écris. Voilà, bon, il y a le téléphone aussi encore qui marche. Choisir de vivre à l'intérieur aujourd'hui, bon, on peut peut pas dire qu'il y a une, il y a pas des, disons, des mesures attractives pour venir s'installer à l'intérieur. Hein. Ça, c'est certain. Hein. Les élus, ils parlent de l'intérieur quand il y a des campagnes électorales. C'est les seules campagnes qu'ils connaissent, d'ailleurs. Hein. Parce que nos campagnes, quand on a un mètre de neige, on les voit pas beaucoup. Hein. L'autre jour, je les voyais se promener sur la place de Saint-Nicolas. Ils étaient en campagne. Mais quand on a eu la neige, ils sont pas montés, hein, ici. D'ailleurs, moi, ici, les élus, certains, je les vois. Mais moi, je vote pas. Mais ils viennent quand il y a les élections. Hein. Quand il y a les élections cantonales, je vois les candidats aux élections cantonales ou l'élu cantonal. Mais sinon, je le vois jamais. Hein. Voilà. Pas simplement parce que je suis au village, mais parce qu'il est même pas dans la région. Hein. Voilà, ça aussi. Hein. Là, ici, nous sommes, on est 1, 2, 3, 4, 5. 5 en permanent qui vivons ici. À Piedrigradio. Et sur la commune, nous sommes 33. Voilà. Et encore ici, nous, la moyenne d'âge, on ne dépasse pas encore les 65 ans. Et moi, j'ai connu ici, à un moment donné, même en étant plus nombreux, il y avait le problème, c'est que c'était beaucoup de gens très, très âgés. 80 ans, 93 ans. Il y avait du monde, mais bon, c'était plus des gens actifs. Hein. Et là, ce qui se passe dans la commune, c'est que, l'âge moyen est beaucoup plus bas, parce qu'il y a quand même quelques enfants dans la commune. Et donc, aujourd'hui, il y a un rajeunissement. Le nombre de gens n'ont pas changé, mais il y a eu un rajeunissement. Ça, c'est quand même intéressant. Hein. Ça porte un peu d'espoir. Hein. 7 ou 8 enfants, quoi, entre écoliers ou collégiens ou lycéens. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'ici, on est quand même, je dirais, privilégié quelque part, parce qu'on est quand même, il y a encore des gens relativement jeunes, je dirais. Voilà. Parce que déjà, avoir une moyenne d'âge en dessous de 65 ans, au maximum 65 ans, dans les villages, c'est bon signe. Hein. Ce qu'il y a aussi, par contre, ici, c'est que tous les villages, dans le village, toute la commune, moi, depuis que je suis installé, ça fait bientôt plus de 15 ans, 16 ou 17 ans, c'est qu'il y a en permanence des travaux. Toutes les maisons, pratiquement, ont été restaurées. Voilà, ça, c'est... Donc, on voit aussi qu'il y a un investissement. Il faudrait le chiffrer, d'ailleurs, parce que comment, dans une commune aussi petite que chez nous, bon, on a 3 chapelles, une église, déjà, il y a des investissements publics. Bon, il y a la maison du parc qui a été restaurée, qui a coûté à l'époque 3 millions de francs. Et il y a aussi tout ce travail. Moi, je connais un maçon. Ici, moi, je l'ai toujours vu travailler dans la commune, pratiquement. Depuis des années, il travaille avec son fils, maintenant. Et là, comme je dis, moi, souvent, ce qu'on voit pas, c'est le matin, il faudrait se mettre au pont en bas, à côté de Pont de Folie, le pont de la Gidaille, et voir un peu toutes les petites... tous les petits artisans qui vont te travailler en Castaniche, c'est-à-dire en fourgonnette, en petit camion, parce que c'est tous des petits trucs. Mais ils vont te travailler en Castaniche et le soir, ils s'en vont. Donc, c'est des... Moi, je dis, j'avais calculé à une époque, on dépassait les 10 millions de francs d'investissement dans la commune. On l'avait calculé sur les dernières années. Hein. Et ça continue. Là, maintenant, je vois là, aujourd'hui, il y a encore quelqu'un à l'entrée du village qui restaure une maison. Voilà. En haut du village, aussi, de Nocar, il y a encore une maison restaurée. Donc, là-haut, à Nocar, toutes les maisons ont été restaurées. Voilà. Ici, il reste 3 maisons à restaurer. Mais là, il y a des gens qui font restaurer leur maison cette année. Et au-dessus aussi, il y a des travaux qui commencent maintenant. Voilà. Donc, c'est ce qui est incroyable aussi, c'est comment, parce que finalement, quand on part en vacances, il vaut mieux aller louer quelque chose, il y a moins de soucis, moins de problèmes que de restaurer une maison. Surtout dans l'ancien, ça coûtait très cher. Et le transport, et en même temps, l'ancien, c'est plein de surprises. Donc, c'est aussi cet attachement qu'ont les gens de leur village. Voilà. Parce que ce n'est pas un problème financier, disons, d'intérêt. L'immobilier, par exemple, le marché immobilier, ici, n'existe pas. On a du mal à évaluer une maison. Et d'ailleurs, quand on va à une banque, si on demande un crédit, le problème qu'il y a, c'est qu'on ne connaît pas la valeur des maisons ici, de l'immobilier. Et donc, des fois, moi, j'ai vu des gens qui ont été obligés de faire venir monter des experts immobiliers, qui ont des problèmes parce qu'ils ne savent pas comment évaluer les maisons. On a des maisons en pierre. Aujourd'hui, c'est un privilège d'avoir une maison en pierre. Qui peut aujourd'hui construire une maison en pierre? Qui sait? Même les riches, on dit, c'est des gens qui ont des maisons en pierre, aujourd'hui, ce sont des gens privilégiés. Les gens qui ont un toit en lauze, c'est des gens privilégiés. Combien, si on l'estime? Nous, ce n'est pas une estimation, disons, monétaire. Nous, on donne la valeur, c'est la valeur sentimentale, l'attachement. Et cette valeur-là, pour nous, on ne la chiffre pas. Et l'été, nous sommes 300. Nous sommes 33 l'hiver, mais l'été, nous sommes 300. On fait un repas, toute la commune, on est jusqu'à 220 habitants, 220 à participer au repas. Donc sur 300, c'est intéressant, c'est important. Parce qu'évidemment, chaque année, il y a des décès, donc il y a des familles en deuil qui ne viennent pas. Et donc on arrive à avoir 220 personnes sur 300 pratiquement qui font le repas ensemble tous les ans. Bon, là aussi, c'est un moment de convivialité aussi. Et ça, c'est comme la procession du Vendredi Saint aussi. Les gens qui reviennent, moi, le village de campagne est moins peuplé que nous, ils sont 5 ou 6. Alors, la veille du Vendredi Saint, le village se remplit pour 2 jours. Ils viennent du continent, de Marseille, de Paris, de Nice, bon, de Bastia aussi, pour la procession. Ils font leur procession, ils s'en vont. Voilà. Ça, c'est des choses, je veux dire, se payer un voyage en avion ou en bateau, 2 jours, pour faire la procession, pour se retrouver. C'est pas le côté religieux, je dirais, croyant qui a ça. Non, c'est ce côté communautaire et cette convivialité qui existe à ce moment-là. Dans la région, il y a encore 6 processions. C'est-à-dire qu'il y a 6 villages encore qui font la procession. Par rapport au nombre, ça dépend des années. Quand il y a les vacances, nous sommes très nombreux. Mais quand il n'y a pas les vacances scolaires, je dis, c'est pendant les vacances, puisque c'est la Pâque. Il y a des années, on se retrouve à 30 ou 40, mais nous y sommes. Et jamais, moi de mémoire, je ne me souviens pas qu'il n'y ait pas eu une procession. Quel que soit le temps, quel que soit le nombre, les processions, elles ont toujours eu lieu. Voilà.